La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Ce sont des particules élémentaires très spéciales, elles fascinent les physiciens depuis longtemps. Bienvenue cet après-midi dans l'univers des neutrinos. Ils sont omniprésents sur Terre comme dans le ciel. Ils sont produits de différentes manières, par exemple par les galaxies lointaines, les étoiles, les rayons cosmiques, les centrales nucléaires et même par notre propre corps. Mes invités sont passionnés par les neutrinos à tel point qu'ils leur consacrent un livre qui paraît chez Dunod et qui s'intitule « À la recherche des neutrinos ». Pourquoi cette physique justement est-elle importante? C'est ce que nous allons découvrir avec Antoine Kouchner et Stéphane Lavignac, et j'attends bien sûr vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une aujourd'hui, nous partons chercher la vie au fond des océans.
Oui, et plus précisément, c'est l'avant-vie qu'on va traquer, les briques qui la composent. Une équipe française vient de faire une découverte importante dans le manteau océanique.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons le rendez-vous science grand format de France 5 avec ce soir un documentaire consacré aux forces de la Terre, justement. Fanny Boyon réalise cette tête au carré, préparée aujourd'hui par Sophie Vaux.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
À la recherche des neutrinos, ce sera donc dans un instant notre dossier avec mes invités que je salue, les physiciens Antoine Kouchner et Stéphane Lavignac. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Antoine Kouchner, pourquoi ces particules, les neutrinos, vous fascinent autant? Alors, c'est une véritable passion, a priori.
Oui, c'est une passion qui a commencé il y a longtemps, en plus. On vous expliquera que faire de la recherche de neutrinos, c'est un travail d'une vie. En effet, parce qu'ils sont tellement difficiles à capter que ça nécessite beaucoup de temps. Mais voilà, on pense qu'ils peuvent nous apporter des clés pour percer un certain nombre de mystères de l'univers et des lois fondamentales.
Rien que ça, hein. On en parlera bien sûr avec vous. Stéphane Lavignac, on est encore loin évidemment d'avoir tout découvert au sujet de ces particules qui ont tendu d'ailleurs pas mal de pièges aux physiciens. C'est ce que vous racontez aussi dans cet ouvrage.
Oui, par exemple, quand on a commencé à observer les neutrinos en provenance du Soleil, on a constaté qu'il y en avait beaucoup moins que ce que les modèles du Soleil prévoyaient. Et l'explication de ce phénomène est venue plus tard, c'est le fait que les neutrinos se transforment en d'autres espèces de neutrinos. Et ça a des conséquences très importantes en physique des particules et en cosmologie.
Ouais, les neutrinos donc se mélangent, se déplacent, disparaissent et réapparaissent périodiquement. On va donc les étudier ensemble avec vous dans un instant. Et vous aurez la lourde tâche de nous faire palpiter avec ces particules élémentaires. On se retrouve donc avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé attaque. Et à tout de suite. Les briques de la vie peuvent naître à plusieurs kilomètres dans le manteau océanique et c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel.
Oui Mathieu, et c'est une découverte importante puisque l'apparition de la vie est un sujet encore très débattu. Est-elle née au fond des océans, venue sur la Terre avec les météorites? Un peu des deux. Une équipe française montre aujourd'hui que certaines briques chimiques, les acides aminés essentiels à la naissance de la vie, peuvent se former sous le plancher océanique. Et pour en parler, nous sommes avec vous, Bénédicte Ménez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris Diderot, directrice de l'équipe géomicrobiologie à l'Institut de physique du globe de Paris et vous avez coordonné ces travaux publiés dans la revue Nature. Alors, ces roches que vous avez analysées pendant 5 ans et dans lesquelles vous trouvez ces traces très intéressantes, d'où est-ce qu'elles viennent?
Alors, elles viennent du massif Atlantis. C'est un dôme qui est situé le long de la dorsale médio-atlantique. Et en fait, c'est un site qui héberge le site hydrothermal de Lost City qui a été découvert dans les années 2000 et qui a surpris toute la communauté parce que les fluides qui en ressortaient étaient riches en hydrogène, en hydrocarbures et du coup, d'où le lien possible d'un monde minéral et d'un monde organique, voire vivant.
Et quand vous avez commencé à les analyser, c'était les acides aminés que vous cherchiez, vous pensiez les trouver dedans?
Non, initialement, mon équipe est spécialisée dans la recherche de traces de vie et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de caractériser les micro-organismes qui vivent dans les roches et qui se nourrissent de l'énergie de la roche. Et donc, on cherchait à caractériser les micro-habitats et en tombant sur ces molécules organiques, on s'est aperçu, en accumulant différentes caractérisations avec différentes sortes de microscopies, qu'en fait, il n'y avait rien de vivant là-dedans et que c'était uniquement une série d'acides aminés qui étaient complètement, qui semblaient semblait être complètement faite par des réactions chimiques.
Parce qu'au début, vous pensiez avoir trouvé de la vie, en fait?
Au début, on pensait avoir trouvé de la vie, parce que c'est pas rare de trouver de la vie dans des roches jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de la vie au fond des océans, on pense tout de suite aux fameuses sources chaudes. Or là, les roches viennent de très loin, dans des endroits beaucoup plus froids.
Oui, tout à fait. C'est une zone hydrothermale dont le moteur, en fait, est les réactions chimiques qui se produisent dans les roches. C'est une réaction qu'on appelle la serpentinisation, qui, en fait, hydrate ces roches du manteau quand l'eau de mer circule dedans. Et donc, du coup, ça fait un hydrothermalisme qui va rarement au-delà de quelques centaines de degrés.
Alors, pourquoi est-ce que trouver à cet endroit des acides aminés, ces briques de la vie, ça change la donne sur la naissance de la vie en elle-même?
Ben c'est vrai, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, beaucoup de gens pensent, comme on n'a pour l'instant pas trouvé de preuves de ces synthèses abiotiques sur Terre, on pense que toute la diversité organique, elle vient des météorites qui sont tombées sur la Terre primitive, parce que là, c'est vrai qu'on trouve une quantité de molécules organiques absolument phénoménale. Et donc là, c'est d'imaginer que les sources profondes de la Terre, qui sont riches en dioxyde de carbone, en eau, sont capables, dans les profondeurs des roches, d'aller convertir un monde minéral en un monde organique et de commencer justement toutes les réactions chimiques qui pourraient être à l'origine de ce qu'on connaît du vivant.
Et ça se passe à quelle profondeur là, exactement dans l'océan?
Dans l'océan lui-même, c'est entre 2000 et 3000 mètres de profondeur, donc il faut que vous imaginiez les Alpes sous vos pieds quand vous êtes...
Des petites Alpes alors, oui,
voilà,
effectivement.
Des petites Alpes. Ouais, ouais. Et donc du coup, par contre, là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller forer ces roches, donc on est au-delà du plancher océanique, et donc ce forage qui a été mené par l'organisation internationale IEDP, qui est un consortium international, a été foré jusqu'à plus d'un kilomètre dans ce massif-là, et c'est ces roches-là qu'on est en train de caractériser, et donc les premières traces qu'on a vues, c'est vers 170 mètres.
Il y a une question que je me pose, Bénédicte Ménez, si le manteau et le fond océanique a tout ce qu'il faut pour permettre à la vie d'apparaître, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui ces formes de transition entre la vie morte et la matière vivante?
Je pense qu'on est gêné par la vie, en fait, parce que toutes cette vie qui colonise ces oasis que sont les sites hydrothermaux océaniques ou qui se déploient dans les pores des roches, en fait, elle est beaucoup plus concentrée que toutes ces réactions qu'on dit abiotiques sans intervention du vivant. Et donc, du coup, elles sont trop diluées et il est difficile d'aller les chercher, traquer derrière tout ce vivant.
Donc, il y a trop de vie pour trouver ce qui est entre la vie et la mort?
Probablement.
Est-ce qu'il est possible autrement que la Terre ait été propice à un moment à l'apparition de la vie et qu'elle ne le soit plus?
En fait, là, les roches que l'on a étudiées ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau à ce qu'on pouvait trouver quand la vie est apparue sur Terre à l'Archéen. À cette époque-là, en fait, toute la croûte était faite de minéraux qui s'apparentent à ceux qui constituent les roches du manteau. Donc, on peut imaginer un processus continu depuis le début de la tectonique des plaques jusqu'à maintenant, avec des réactions qui se sont enchaînées.
Alors, Antoine Kouchner, je vous vois écouter attentivement Bénédicte Ménez. Vous êtes d'ailleurs de la même université Paris Diderot, mais dans des disciplines très différentes. Alors, vous, justement, Antoine Kouchner, qui est responsable, entre autres, de cet instrument Antares, en fait, de cette expérience, qui est un télescope au sein de la Méditerranée pour aller traquer les neutrinos. Est-ce que ça pourrait servir, justement, à aller sur les traces des tout débuts de la vie, là, ou pas, ce système?
Je ne suis pas certain qu'on puisse aller sur les traces du tout début de la vie, mais c'est vrai qu'on est installé au fond des abysses en Méditerranée.
Pour faire de l'astronomie?
Pour faire de l'astronomie, j'essaierai de vous expliquer pourquoi. Ouais. Mais que du coup, on est un observatoire multidisciplinaire et qu'en fait, en temps réel, parce que nous sommes câblés à la côte, on enregistre tout un tas de données, que ce soit l'activité des cétacés à travers le son qu'ils produisent, mais aussi la concentration en oxygène, en dioxyde de carbone. Donc on regarde sur des longues périodes et en temps réel l'évolution des abysses. Donc c'est certainement quelque chose d'intéressant.
Une dernière question, Bénédicte Ménez. Là, vous trouvez quelque chose de très intéressant entre l'eau et la roche en interaction, et ça se passe sur d'autres planètes aussi, ces interactions. Est-ce que ça peut nous aider à traquer la vie ailleurs?
C'est effectivement des roches qui sont communes et notamment dont on sait qu'elles existent aussi sur Mars. Et donc du coup, effectivement, on pourrait imaginer des choses similaires qui se seraient déroulées sur d'autres planètes. Et notamment aussi, on a des grandes preuves de sites hydrothermaux sur Encélade qui déchargent aussi des grandes quantités d'hydrogène et qui pourraient aussi s'assimiler à ce type de réaction. Donc on peut imaginer qu'on a des chimies similaires dans le système solaire et qu'on pourrait explorer. Par contre, ça n'a rien à voir avec la vie.
Et ces roches, justement, publiées dans Nature, est-ce que c'est finalement un élément supplémentaire dans le scénario qui permet d'essayer de comprendre l'apparition de la vie? Il faut l'envisager comment, alors?
Effectivement, une des théories pour l'origine de la vie, ce sont les sources hydrothermales dans lesquelles auraient pu apparaître ces molécules et qui auraient pu être protégées donc de la surface qui était inhospitalière à l'époque où la vie est apparue sur Terre. Par contre, on ne sait pas, on est incapable d'affirmer que ces acides aminés-là constituent vraiment des blocs du vivant. Par contre, on sait que les acides aminés sont des catalyseurs d'autres réactions chimiques, donc ils ont peut-être été des précurseurs pour une complexification de l'ensemble de cette chimie prébiotique.
C'est la question de la vie qui est complexe. Hein.
C'est la question de la vie qui est complexe.
On le voit bien. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Bénédicte Ménez, vous êtes géobiologiste. Merci infiniment. Et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, à Angoulême, des archéologues de l'INRAP mettent au jour un site préhistorique exceptionnel daté de 11 000 ans, avec 200 000 silex, 400 pointes de flèches, des traces de camps et de feu. Le site de 2000 mètres carrés se trouve sur l'îlot Renaudin, à Angoulême. Il permet de suivre l'évolution des pratiques humaines sur plus de 4 000 ans, en plein dans une période de transition climatique. Selon les découvreurs, une fois la fouille terminée, il servira certainement de référence pour toute la communauté. Le rire des bébés et des chimpanzés est très similaire. Les bébés humains ont un rire très particulier, différent des adultes, car nos chers bambins rigolent à la fois lors de l'expiration, mais aussi lors de l'inspiration. Écoutez plutôt. Voilà le rire d'un bébé. Eh bien, figurez-vous qu'une équipe néerlandaise a comparé ce rire à celui de primates et particulièrement ceux de chimpanzés. Et il montre que ces rires sont très proches. Une question perdure cependant. Pourquoi sommes-nous les seuls primates à perdre ce rire double en grandissant? Et puis pour terminer, pas facile d'apprendre à s'habiller même quand on est une intelligence artificielle. La capacité à enfiler son t-shirt ou retirer son pantalon peut vous paraître innée, mais c'est un apprentissage très complexe qui requiert pour l'humain de nombreuses heures d'attention parentale. Des chercheurs de l'Institut des technologies de Géorgie ont essayé d'apprendre à s'habiller à des pantins dirigés par une intelligence artificielle. Le résultat est à voir en vidéo sur notre page Facebook, c'est hilarant, et vous remarquerez que les erreurs des pantins sont les mêmes que celles de vos enfants, justement. Allez, on part à la découverte des neutrinos dans un instant.
Down to my knees. You said I'd never.
Loaded, c'était Miles Kane à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, on part donc ensemble à la découverte des neutrinos cet après-midi dans la tête au carré, l'objet d'un livre qui paraît aux éditions Dunod et dont vous êtes les auteurs Antoine Kouchner et Stéphane Lavignac. Antoine Kouchner, vous êtes professeur donc à l'Université Paris Diderot et directeur du laboratoire Astro, Particules et Cosmologie. Vous êtes également donc responsable, on le disait tout à l'heure, de cette collaboration internationale qui s'appelle Antares et qui exploite le premier télescope sous-marin à neutrinos. Il se trouve où exactement en Méditerranée?
Dans la fosse de Porquerolles, au large de Toulon, une vingtaine de kilomètres.
Donc il est toujours en activité.
Toujours en activité.
Aujourd'hui. Et il y a d'autres instruments qui sont
en cours de construction.
En cours de construction.
On va faire plus grand encore.
Avec KM3 net.
KM3 net.
C'est ça.
Ouais, KM3 comme kilomètre cube. On va vous expliquer la taille.
Ce sera aussi en Méditerranée?
Pareil, à peu près au même endroit.
Ouais, voilà. Ouais. Vous nous expliquerez également ce que vous faites exactement avec ces instruments. Stéphane Lavignac, vous êtes quant à vous donc physicien au CNRS et vous effectuez des recherches à l'Institut de physique théorique de Saclay.
C'est ça.
Vos travaux portent sur quoi exactement?
Alors, mes travaux portent sur les conséquences, en fait, des masses des neutrinos pour la physique des particules et la cosmologie et le lien éventuel qui est une hypothèse, certes, mais très intéressante, entre les masses des neutrinos et la symétrie matière-antimatière de l'univers.
Mmh. On développera ça aussi tout à l'heure ensemble, évidemment, pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Les auditeurs nous rejoignent avec des messages et des questions pour vous à la recherche des neutrinos. Alors, moi, je me souviens très bien, la première fois, on a évoqué justement les neutrinos en longueur, en tout cas dans la tête au carré. C'était en 2011. On peut presque dire, d'ailleurs, que ça a été l'heure de gloire à ce moment-là des neutrinos. Je vous propose d'écouter d'abord un extrait du 19-20 de France 3, justement en 2011, pour planter le décor.
La formule est célèbre et jusqu'à présent irréfutable. Depuis un siècle, la théorie d'Albert Einstein s'appuie sur un pilier. La vitesse de la lumière est une limite infranchissable. Jusqu'ici. Car hier, une équipe de chercheurs internationaux a dévoilé une découverte lumineuse et extraordinaire. Ils ont étudié le déplacement d'un faisceau de particules, des neutrinos. Et là, stupéfaction, ces particules élémentaires filent à plus de 300 000 km à la seconde. Captées à leur arrivée, elles ont 20 mètres d'avance sur la lumière.
Et effectivement, Antoine Kouchner, c'était vraiment la stupéfaction, hein, parce que au point d'en faire une émission, au point que la une des médias vraiment ont parlé de cette découverte de l'expérience Opéra, donc c'était son nom à l'époque, et ça a été contredit quelques temps plus tard. Mais enfin, à ce moment-là, tout restait à prouver quand même. Hein.
Oui, ben, beaucoup de personnes l'ont cru. D'abord, les gens qui ont fait l'expérience en premier lieu, mais qui ont donné à leur communauté, à la communauté, des indications de quels étaient leurs résultats. Ce qui fait que c'était très enthousiasmant. On s'est tous demandé, expérimentateurs comme théoriciens, qu'est-ce qu'on pouvait faire, soit pour le corroborer, soit pour l'infirmer.
Vous y croyez, vous, à l'époque ou pas, franchement?
Moi, j'étais surtout préoccupé de savoir qu'est-ce que je pouvais faire avec ma propre expérience pour voir si c'était vrai ou faux. Ouais. Mais j'étais prêt à y croire si les choses étaient vérifiées expérimentalement de façon indépendante.
Ouais. Et c'est ça qui s'est passé, d'ailleurs, hein, Stéphane Lavignac, c'est que ça a aussi généré une espèce de dynamique au sein de la communauté, parce que tout le monde a essayé de voir, justement, si on avait moyen de vérifier cette mesure des neutrinos plus rapide que la vitesse de la lumière. Hein.
Oui, il y a d'autres expériences qui ont essayé de faire la même mesure et qui ont démenti d'ailleurs le résultat d'Opéra. Et côté théorique, puisque moi je suis plutôt théoricien, évidemment il y a eu beaucoup d'activités pour essayer d'expliquer comment les neutrinos pourraient éventuellement se propager plus rapidement que la lumière. Moi j'étais un petit peu sceptique, mais sans avoir fait des recherches très poussées là-dessus, j'avais aussi regardé un petit peu évidemment les explications possibles.
Beaucoup de réactivité chez les théoriciens quand même.
Oui, c'est ça. Hein. Alors moi je me souviens, c'est Einstein qui était à la une évidemment, parce que c'est lui qui incarnait. L'idée c'était de dire, ben, est-ce que finalement Einstein est remis en cause là avec cette observation, hein. Donc c'était aussi une façon de pouvoir mettre en doute la relativité.
Ouais, tout à fait. C'est ça qui était mis en avant.
Alors, on va écouter Thibaut Damour, qui était notre invité justement à l'occasion de cette émission qu'on avait faite en octobre 2011 et qui laissait bien entendre quand même son scepticisme.
D'abord, il ne faut pas appeler ça une découverte, mais c'est l'annonce d'un résultat expérimental. Ça n'est pas une découverte tant que ça n'est pas confirmé. Même si, en principe, on s'attend à ce qu'effectivement quelque chose soit quelque chose donc aux marges de la physique que l'on connaisse, ce qui est très surprenant et qui rend la plupart des physiciens dubitatifs, c'est que là, on parle d'une violation qui a l'air d'une violation apparente de la relativité à la cinquième décimale, c'est ce dont il parle.
Donc, beaucoup plus proche.
Beaucoup plus proche que d'autres tests. Mmh. Il existait un test astrophysique de neutrinos reçus d'une supernova dans le grand nuage de Magellan, qui, sur 170 000 années de voyage, parce que c'était à 170 000 années-lumière, n'a eu que quelques heures de différence entre les neutrinos et la lumière. C'était pas les mêmes conditions, c'était pas les mêmes neutrinos, c'est donc... Mais même en laissant les choses ouvertes, ça rend difficile d'imaginer une façon d'incorporer ce résultat s'il était confirmé dans le cadre actuel. Donc s'il était confirmé, ça poserait un vrai problème.
Antoine Kouchner, une réaction justement sur les propos de Thibaut Damour qui attendait la suite quand même, hein. On sent bien quand même sa réserve.
De toute façon, il faut toujours vérifier les résultats expérimentaux de façon indépendante, ça on le sait, et donc ça a été tenté. Je rebondirai plus sur la supernova qu'il évoque. Bon, c'est complexe en effet parce que les neutrinos sont en fait arrivés en avant, mais en avance sur l'observation qui a été faite ensuite. Mais disons que ça, c'était un épisode très marquant de l'astronomie des neutrinos qu'on évoquera peut-être plus tard.
Alors juste pour terminer sur ce chapitre, parce que ça montre aussi que une particule élémentaire peut faire la une de l'actualité. Hein, et puis c'est vraiment à ce moment-là qu'on en a entendu parler. Je pense que probablement, d'ailleurs, Stéphane Lavignac, pour le grand public, c'était une façon de faire connaissance aussi avec ces particules.
Oui,
donc l'erreur, puisque ensuite ça a été infirmé, l'erreur autour de cette mesure a été bénéfique quand même.
Oui, peut-être. Elle a peut-être aussi permis de faire prendre conscience que finalement la science n'avance pas toujours de manière linéaire et que dans l'histoire des découvertes expérimentales ou théoriques d'ailleurs, il y a quelquefois des fausses pistes, des cul-de-sac, on pense avoir tout vérifié, c'est ce que pensait un certain nombre de physiciens d'opéra, et en fait, il y a un détail qu'on a oublié.
Câblage, en l'occurrence, qui
était dans
la cause. Ouais. Donc, c'est ça qui a permis, justement, d'infirmer ensuite. Et la fausse note, hein, on pourrait dire ça comme ça, a été rectifiée quelques temps plus tard. C'était en juin 2012, à la conférence des neutrinos. C'est vous qui le racontez, justement, dans votre ouvrage, à Kyoto. Donc, l'épisode est quand même très intéressant, et j'avais envie de le raconter à nouveau, parce que vous l'évoquez, et c'est vrai que c'était une façon de faire connaissance avec ces neutrinos. Alors qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut quand même maintenant aller dans le vif du sujet, Antoine Kouchner. Qu'est-ce que c'est qu'un neutrino? Alors donnons une définition à nos auditeurs.
Bon, on peut dire qu'un neutrino, c'est une particule élémentaire, comme il en existe d'autres, mais qu'elle a des propriétés tout à fait spéciales. Bon, comme son nom l'indique, on peut deviner qu'elle est neutre du point de vue électrique. Elle ne porte pas de charge électrique.
Ouais.
Et une de ces... propriété spécifique, c'est qu'elle interagit très 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 faiblement, très peu avec la matière, donc elle passe inaperçue, ce qui rend évidemment difficile de la capturer. Ça, ce sont des propriétés qui sont les plus marquantes. Stéphane va certainement nous dire aussi que c'est peut-être, on ne sait pas encore, sa propre antiparticule. Et dans le contexte de la zoologie des particules aujourd'hui, on sait également, on l'a appris grâce aux oscillations qu'on évoquera tout à l'heure, qu'elle est massive, mais que la masse est beaucoup plus faible que la masse des autres particules massives. On n'est pas sûr de comprendre très bien pourquoi, mais on pense que si on est capable le jour où on sera capable de le comprendre, ça va nous emmener beaucoup plus loin sur les propriétés des lois fondamentales de l'univers.
Vous parlez de zoologie, vous employez ce mot pour évoquer les particules?
Oui, bêtement, parce que on a une sorte de petit bestiaire justement de nos particules. Finalement, il n'y en a pas tant que ça.
Il y en a combien donc, alors, a priori, aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on en connaît?
De neutrinos, il y en a trois familles, et en fait, si c'est sa propre antiparticule, on va en rester sur trois. Sinon, on va parler de six neutrinos. Il y a plus de particules élémentaires. Ce qu'il y a, c'est que il n'y en a pas énormément qui soient stables ou qui aient un temps de vie suffisamment long pour qu'on puisse être familier de ces particules. On connaît bien l'électron, mais il y a d'autres particules du même genre, plus massifs, et qui, du coup, se désintègrent, par exemple, en électrons. Les muons et les taux, qu'on évoquera peut-être brièvement.
Stéphane Lavignac, on parle de saveur aussi, c'est ça? Pour caractériser, c'est beau d'ailleurs ce nom.
Oui,
qu'est-ce qu'il exprime exactement?
C'est assez poétique. Mais il exprime le fait en fait que on a, comme le disait Antoine, non pas un neutrino, mais trois espèces de neutrinos.
Donc trois saveurs, on pourrait dire des choses comme
trois
ça.
Trois saveurs, oui. Ouais. On parle de saveurs. Il faut peut-être rappeler que les autres particules élémentaires, les constituants fondamentaux de la matière qu'on connaît, on les trouve à l'intérieur de l'atome. Donc il y a dans l'atome il y a un noyau qui est environné d'un nuage d'électrons. Donc l'électron est une des particules élémentaires. Et dans le noyau, il y a des protons qui ont une charge électrique positive, des neutrons qui n'ont pas de charge électrique et qui sont eux-mêmes constitués de particules élémentaires plus petites qu'on appelle les quarks. Et les neutrinos, eux, ben, ils ne sont pas dans les atomes.
Donc ils n'entrent pas dans la composition des atomes. Hein.
Ils n'entrent pas stricto sensu dans la composition de la matière. On les considère quand même comme des particules de matière. Mm-hmm. Et en fait, ils sont omniprésents dans l'univers puisqu'ils ont été produits au moment du Big Bang. Et ils sont produits par diverses sources. Vous avez mentionné tout à l'heure donc les centrales nucléaires. En fait, ils sont créés dans des processus nucléaires, par exemple des désintégrations radioactives. Et les centrales nucléaires en produisent, les étoiles en produisent.
Donc les galaxies, les étoiles.
Les galaxies, les étoiles, les mécanismes qui créent l'énergie des étoiles comme le Soleil produisent des neutrinos.
Et nous-mêmes produisons des neutrinos. Corps, c'est ça, notre corps, à cause de la radioactivité, justement?
À cause de la radioactivité naturelle, c'est-à-dire que nous avons dans notre corps des isotopes naturels de certains éléments atomiques qui se désintègrent et dans cette désintégration, ils émettent des neutrinos.
Donc nous sommes des producteurs, le calcium en particulier.
Le potassium.
Le potassium.
Ça se désintègre en calcium, oui.
Donc nous sommes effectivement des producteurs de neutrinos. Alors on disait qu'il y avait trois types de neutrinos. Il y a je vais les nommer et ensuite expliquer, le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino toïque. Alors ça fait un peu jargon, mais le neutrino électronique, on l'appelle électronique parce qu'il est produit en association avec un électron. Le neutrino muonique, il est produit en association avec le muon, qui est une particule plus lourde que l'électron. Et de même pour le neutrino toïque. Et ce qu'on a découvert expérimentalement, qui a pris de nombreuses années à établir expérimentalement, c'est que ces différentes espèces de neutrinos peuvent se transformer les unes dans les autres.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est
la complexité pour les repérer aussi.
D'où la complexité pour être sûr qu'on a bien compté le bon nombre de neutrinos, par exemple en provenance du Soleil. Puisque le Soleil produit des neutrinos de type électronique et qu'on avait donc des expériences qui, au départ, n'étaient sensibles, qui ne mesuraient que les neutrinos électroniques. Et à la fin des années 60, quand on a l'expérience pionnière de détection des neutrinos émis par le Soleil était dans la mine d'Homestake aux États-Unis, ben, quand ils ont publié leurs résultats, ils avaient simplement un tiers des neutrinos attendus. Donc où étaient passés les autres? Et la grande question, c'était de savoir si d'abord si l'expérience n'avait pas fait une erreur, ensuite si les modèles solaires qui prévoyaient le nombre de neutrinos qui devaient nous arriver en provenance du Soleil étaient corrects, ou bien si, autre possibilité, ces neutrinos électroniques n'avaient pas pu se transformer en une autre saveur de neutrinos, neutrinos muoniques et neutrinos toïques au cours de leur trajet vers la Terre.
Allez, on y revient dans un instant avec vous pour éclaircir encore plus cette astronomie des neutrinos, puisque c'est l'objet de votre ouvrage qui paraît chez Dunod, à la recherche des neutrinos, et c'est sur France Inter.
J'ai dribblé dans la vallée, les âmes et les années. J'ai grandi dans les vapes et vapoté jusqu'à me cramer. Noyé dans mon apnée, cadavre dans les allées. Visage cellophané, ils attendent que je me retourne pour me planter dans le dos. Adieu bientôt, j'ai plus de sessions gaming que de sessions studio. J'élimine, je les arrête, prends mon cœur, tu le ramènes. J'suis détestable, j'suis l'autoportrait de la planète. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt.
Je me regarde en face comme vérité. Est-ce que tout ça est mérité? Jamais en paix, pas dérivé. Ils traitent d'entre comptes vérifiés. La vie me l'a prise, ma ville m'attriste. T'as le pourcentage d'une batterie faible. Doigt dans la prise pour me matrixer. Je veux me barrer, barrer à tout qui se perd. Et la boutique ferme, je perds des heures. J'ai gardé semaine dans mes cauchemars, tête dans mes rêves. Je sais qui suis, pourquoi j'y reste. Mais si je m'enfuis, où est-ce que j'irai?
J'ai dribblé dans la vallée, les âmes et les années. J'ai grandi dans les vapes et vapoté jusqu'à me cramer. Noyé dans mon apnée, cadavre dans les allées. Visage cellophané, ils attendent que je me retourne pour me planter dans le dos. Adieu bientôt, j'ai plus de sessions gaming que de sessions studio. J'élimine, je les arrête, prends mon cœur, tu le ramènes. J'suis détestable, j'suis l'autoportrait de la planète. Adieu bientôt.
Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt.
Mama, mama, je me sens seul. Comme un rappeur insensible.
Je raconte des histoires qui font peur. Mon futur dans un incendie.
Et ne fais pas l'étonner le jour où je m'en irai. Très loin d'ici comme au ciel. Et un habitué au microclimat qu'il y a dans mon hall. On a glissé nos cordes dans ton auréole. T'as une belle fulle sur mes épaules. Dis pas que j'ai de la chance, elle a bon dos. Je vais couper mon fauteuil pour faire mode avion. De minimum platinium ou j'abandonne. Idée noire dans le brouillard. T'es ma lumière, bientôt tu me demanderas comment qu'on fait. Je sais pas, peu importe, moi je connais pas vos codes. Un jour t'as plus la cote, médite à l'occasion. Arc-en-ciel en polo Lacoste. Si loin du soleil dans la cave. J'entends sonner mais je te laisse à la porte. On a compris qu'on dérange, mais c'est bien gâche.
Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt.
Ah, je suis déjà mort. Et si tu m'aimes, dis-le-moi. Je m'efforcerai de te croire. Adieu bientôt. Adieu, au revoir.
Adieu bientôt, c'était Columbine à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Nous sommes à la frontière entre la France et l'Italie. Ici se cache l'un des endroits les plus purs d'Europe. Situé sous 1700 mètres de roche, ce laboratoire de recherche fondamentale est abrité des rayons cosmiques. Mieux comprendre l'univers depuis le cœur de la montagne, l'expérience Edelweiss a commencé il y a 20 ans. Le laboratoire souterrain de Modane accueille des physiciens du monde entier en quête de particules. Voici le premier élément de SuperNemo, le futur détecteur de particules servira à mieux comprendre le neutrino, une particule élémentaire invisible, un véritable graal pour les physiciens.
Il nous expliquerait beaucoup de choses sur la fabrication de la matière, la création de l'univers. Il nous aiderait à comprendre aussi de quoi est faite la Terre. On a émis des hypothèses sur sa composition, mais on n'est jamais allé creuser plus loin que 20 km de profondeur, par exemple.
Voilà le laboratoire souterrain de Modane, donc une des expériences réalisées autour des neutrinos, laboratoire de recherche et à la recherche justement des neutrinos, c'est le thème de la tête au carré avec mes invités Antoine Kouchner et Stéphane Lavignac, auteurs de cet ouvrage qui paraît chez Duno. Antoine Kouchner, justement, les endroits les plus insolites servent aux expériences autour des neutrinos.
Oui, c'est très insolite, on a besoin de se protéger en fait de ce qui a été appelé les rayons cosmiques qui bombardent l'atmosphère terrestre en permanence. Et d'ailleurs, on ne sait pas vraiment quelle est l'origine de ces rayons cosmiques. On espère que détecter des neutrinos cosmiques va nous indiquer les sources de ces rayons cosmiques. Ça, c'est une parenthèse. Ils créent des particules dans l'atmosphère et ces particules, c'est du bruit de fond lorsqu'on cherche à détecter le signal rare des neutrinos. Ouais. Donc on se blinde et on se met au fond des grottes. Ou au fond des océans.
Oui, c'est ça.
Blindage naturel.
On va dans les abysses aussi, alors, du coup.
On va dans les abysses également.
Ouais. Et ce sont des lieux propices, justement, à la recherche, à la détection de ces neutrinos?
Les abysses offrent des lieux très propices parce que il n'y a pas de limite à faire des détecteurs très très grands dans les abysses. C'est essentiellement tout l'espace est limité. Et puis par ailleurs, le milieu naturel permet effectivement de servir de cible et en fait de servir de révélateur du passage des neutrinos.
Alors il y a des questions des auditeurs pour vous sur franceinter.fr. Il y a Jean-Paul qui nous dit ceci. L'abondance des neutrinos et leur influence quand ils traversent nos corps ou la Terre entière, comme vous l'expliquiez tout à l'heure Sébastien Lavignac, peuvent-ils avoir des conséquences sur les organismes? Parce qu'au moment où on se parle, il y a des millions de neutrinos ou des milliards même peut-être qui nous traversent.
Tout à fait, oui. Par exemple, les neutrinos en provenance du Soleil, il y en a 60 milliards par seconde qui traversent 1 cm² de notre corps ou de la Terre. Mais on peut rassurer votre auditeur, on ne risque rien puisque sur 1 milliard de neutrinos qui traversent la Terre de part en part, des antipodes jusqu'à la maison de la radio par exemple, il y en a moins d'un qui va interagir. Donc ils ont vraiment... une interaction qui est beaucoup plus faible que celle des autres particules, en particulier des électrons dont on parlait tout à l'heure.
Quand vous parlez d'interaction, c'est avec la matière?
C'est l'interaction avec la matière, oui, tout à fait.
Ouais. Alors justement, à ce sujet-là, il y a Claire qui demande comment le neutrino interagit avec la matière, Antoine Kouchner, parce que c'est un des problèmes de sa détection, justement, hein, le peu d'interaction.
Exactement, c'est le gros problème de sa détection. Donc, comment il interagit? Il vient essentiellement faire un choc et puis taper sur le noyau atomique. Et puis alors effectivement, là, il peut se transformer en une particule, par exemple, chargée comme un électron, si c'est un neutrino électronique. Et on va voir l'électron. Donc, c'est un processus indirect qui nous révèle la présence de l'interaction du neutrino.
Oui,
à ce sujet, on peut peut-être évoquer l'idée en fait qui est venue et le principe de détection. Il a fallu, je le rappelle, 25 ans entre l'idée qui avait été émise par Wolfgang Pauli de l'existence de ces neutrinos et puis la première détection. Ouais. C'est vous dire la difficulté de les capter.
Donc la théorie finalement, l'idée de départ, elle était à peu près dans les années 30, c'est ça?
C'est vraiment, exactement, c'est un aller-retour entre la théorie et l'expérience qui est à mon avis très jolie à raconter, qui montre la façon dont marche la science. Alors ça démarre au début du siècle dernier dans le contexte de la radioactivité qu'on connaît mal, hein. Elle a été appelée alpha, bêta, gamma, ça veut dire qu'on savait pas trop ce que c'était. Ce qui nous intéresse nous c'est la radioactivité bêta, en fait un électron qui est émis assez spontanément d'un noyau. Et on parlait d'Einstein tout à l'heure, vous connaissez tous la formule E égale mc2 qui vous dit que l'énergie c'est équivalent à la masse. Donc quand on a une désintégration radioactive, le noyau père qui a une certaine masse va dans le noyau fils qui a une autre masse. Et s'il y a un électron qui est émis et qu'on croit au principe de conservation de l'énergie, cet électron doit emporter la différence de masse en énergie, donc une valeur monoénergétique. Or, qu'est-ce qu'ont vu les premières expériences, notamment Chadwick, qui a pensé qu'il avait fait une erreur de mesure, c'est qu'en fait, il y avait un spectre continu. La valeur d'énergie emportée par les différents électrons n'était pas unique. Et ça, c'était ou bien une violation du principe de conservation, ou bien fallait inventer autre chose. Et c'est ce qu'a fait Wolfgang Pauli.
Oui.
Il a émis l'hypothèse qu'il y avait autre chose, mais qui échappait à la détection, qui emportait une certaine partie de l'énergie.
Donc là, on est dans les années 30, effectivement. Et alors, dans sa théorie, la façon dont il imagine ça, il décrit en fait le neutrino quasiment tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Oui, il le théorise pas vraiment d'ailleurs. Il dit, c'est un remède désespéré si je veux conserver le principe de conservation de l'énergie. C'est une fameuse lettre qu'il envoie à ses collègues radioactifs à la fin des années 30. Il y a une conférence et puis il n'y va pas lui-même, il est retenu par un bal, donc vous voyez c'est plus important que le neutrino, et il dit voilà, moi je vous propose qu'il y ait une particule qui nous échappe, qui est émise et qui emporte une partie de cette énergie.
Donc il y a une autre particule.
Il appelle le neutron au départ, mais en fait on a découvert le neutron après, et donc finalement il est rebaptisé par Enrico Fermi qui lui théorise le neutrino. Et qui dit, voilà, si le neutrino existe, on devrait pouvoir le détecter autrement.
Ouais.
25 ans plus tard,
on Alors c'est ça, la détection elle est très longue en fait.
Ouais. Très longue.
C'est toute la difficulté.
Justement parce qu'ils interagissent très faiblement. Donc il faut se situer auprès d'une source très très intense. Et c'est là qu'interviennent les réacteurs nucléaires. La première détection, elle a été faite auprès de réacteurs nucléaires de Savannah River par des physiciens Rhines et Cowan qui ont mis en évidence quelques interactions alors que le flux est colossal, qui viennent de réacteurs nucléaires, justement parce que les neutrinos sont venus taper
dans le noyau, dans le cœur en tout cas.
Dans le cœur, voilà, sur un proton, créant un neutron et un positon qui est en fait l'antiparticule de l'électron et qui lui offre une signature très spécifique. Donc on a trouvé ces positons qui sont l'indication de l'interaction de ces neutrinos.
Ouais, donc découverte très importante évidemment, cette détection, expérience fondamentale comme vous nous expliquiez tout à l'heure Stéphane Lavignac. Alors il y a d'autres questions des auditeurs, François qui nous dit si on peut voir justement les neutrinos du Big Bang, puisque vous l'avez évoqué ça tout à l'heure.
Alors c'est très difficile pour les aspects expérimentaux, je pense qu'Antoine est plus compétent que moi, mais ce qu'on peut dire c'est que les neutrinos du Big Bang sont des neutrinos qui sont très peu énergétiques, ils ont très peu d'énergie, ils sont non relativistes, c'est-à-dire que l'énergie qui est associée à leur vitesse est plus faible que leur masse, et moins un neutrino est énergétique, plus son interaction est faible, ce qui fait la difficulté de les détecter. Il y a différentes idées expérimentales qui sont à l'état de projet pour le moment et qui, on l'espère, permettront un jour de détecter un peu cette pièce manquante du Big Bang dont on a vérifié bien d'autres prédictions, à commencer par ce qu'on appelle le rayonnement cosmique de fond, le fond micro-ondes qui est constitué de photons. Lui, on l'a détecté, on a mesuré très précisément son spectre en énergie. Et
est-ce que c'est le fond diffus cosmologique?
C'est le fond diffus cosmologique.
C'est la même chose, 380 000 ans après le Big Bang.
C'est ça.
Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'effectivement, ces neutrinos qui seraient des neutrinos cosmologiques, eux, ils interviennent, ils se découplent deux secondes après le Big Bang. Donc on arriverait, si on les détecte, à remonter encore plus proche du Big Bang.
Donc à dépasser finalement cette limite pour l'instant avec les photons, c'est ça, de 380 000 ans après le Big Bang.
C'est ça.
Mais on serait capable de le faire, à votre avis?
Alors c'est un vrai défi expérimental. Il y a des pistes, même, comme le disait Stéphane, ce serait extraordinaire.
Ah oui.
Mais c'est pas tout à fait demain. Je sais pas si moi-même je le verrai. Mais enfin, oui, il y a des pistes. Et donc j'imagine que le jeu en vaut largement la chandelle. Donc on va continuer à explorer cette voie-là.
Alors aujourd'hui, les vestiges du Big Bang via les neutrinos, pour bien comprendre de quoi on dispose alors aujourd'hui.
Alors, c'est vraiment le modèle qui prédit que les neutrinos cosmologiques, les vestiges du Big Bang sont là, dans le modèle cosmologique standard. Alors après, il faut savoir de quoi on parle, parce que eux, ils sont là, reliques, partout dans l'univers.
Oui.
Après, quand on parle du Big Bang, on pense à remonter dans le temps, et on peut aussi remonter dans le temps en observant des objets très lointains, mais là, avec des énergies beaucoup plus grandes. Mmh. Donc c'est une autre approche qui est différente. Ce n'est pas vraiment une approche cosmologique, mais c'est plutôt pour voir quelles étaient les sources un certain temps après le Big Bang.
Donc c'est très précieux de traquer ces neutrinos quand même, pour justement essayer de recréer cette histoire, de comprendre mieux ce qui s'est passé aux origines de l'univers.
Oui, absolument.
Ouais. Et c'est le travail des physiciens aujourd'hui, donc dans ce domaine
c'est,
en particulier.
C'est le travail d'un certain nombre de physiciens, mais qui sont vraiment des pionniers, parce que on mesure la difficulté expérimentale. C'est déjà tellement difficile de voir l'abondante flux de neutrinos qui nous entoure, que celui-là, on
de savoir les distinguer, hein, c'est ça, oui, c'est.
Il y a une étape qui a été franchie récemment, dont on a un petit peu parlé, sur la diffusion cohérente, on appelle ça des neutrinos, et qui a fait l'objet de certains articles récemment. Mais beaucoup est encore à franchir, parce que l'énergie de ces neutrinos est tellement faible que forcément, encore une fois, si vous croyez à la conservation de l'énergie, ils vont pas déposer suffisamment d'énergie pour qu'on puisse les détecter. C'est ça, en fait, la difficulté intrinsèque.
On parlait des origines de la vie tout à l'heure. Ben là, on parle des origines de l'univers. Finalement, on est dans la même idée, en tout cas, et la même recherche. Et ça, grâce aux neutrinos. Vous restez avec nous, Antoine Kouchner et Stéphane Lavignac. D'autres questions pour vous, dans un instant, sur franceinter.fr. Le temps d'écouter Jacques Dutronc avec la balade du bon et des méchants. C'était 1976, et c'est surtout l'occasion, aujourd'hui, de rendre hommage à Francis Lay.
Je ne savais rien, ne connaissais rien. Je prenais la vie comme elle vient. J'ai pris ton amour comme vient le jour, sur un air de slow au balajo. C'était l'avant-guerre, parfum de naguère, en couleur sépia ou noir et blanc. C'était l'insouciance, parfum d'innocence, il n'y avait ni bon ni méchant. Dis-ce que tu m'aimes, bien sûr que je t'aime, bien sûr que je t'aime. Quelle question sur les photos de ma jeunesse, une étrange tendresse, l'amour en noir et blanc. Aujourd'hui je sais, aujourd'hui j'ai fait tout ce que les hommes peuvent faire. Et l'on m'a trahi, et je t'ai trahi, sur un air de slow au balajo. Car c'était la guerre, parfum de mystère, avec dans la bouche de sang. Puis vient l'après-guerre, aux couleurs amères, c'est fini le temps des innocents. Dis, est-ce que tu m'aimes? Dis, est-ce que je t'aime? Est-ce que nous nous aimons comme avant, quand nous partions en promenade, en chantant la balade du bon et
voilà, Francis Lai qui nous a quittés, et c'est lui qui avait composé justement la musique de cette chanson de Jacques Dutronc, La balade du bon et des méchants.
La tête au carré sur France Inter.
À quelle profondeur on doit aller?
3300 mètres.
Alors, de quoi s'agit-il?
Voici des neutrinos à activité normale, masse infime, charge électrique nulle. Ils traversent toute matière classique presque sans encombre.
Ton message disait que le chiffre avait doublé suite aux dernières éruptions solaires.
C'était vrai il y a une semaine. Mais il s'est produit un truc il y a 2 jours. Les plus grandes éruptions solaires de mémoire d'homme, qui ont engendré la plus grande quantité de neutrinos jamais enregistrés. Ce n'est pas ça qui m'inquiète, Adrienne. C'est la toute première fois que les neutrinos entraînent une réaction physique.
Non, c'est impossible.
Vous n'allez pas en revenir. On dirait que les neutrinos provenant du Soleil ont muté en une nouvelle sorte de particule nucléaire. Elles réchauffent le noyau de la Terre et agissent soudain comme des micro-ondes.
Voilà, c'est un peu les neutrinos apocalypse avec ce film qui s'appelle 2012, Roland Emmerich, qui était justement présenté en 2009, film catastrophe que vous ne connaissiez pas, Antoine Kouchner et Stéphane Lavignac, vous n'aviez pas vu ce grand film 2012.
Non, mais je suis rassuré qu'on ait passé le cap 2012 et qu'on soit toujours là.
Voilà, scénario apocalyptique, on peut s'amuser aussi avec les neutrinos, hein,
oui,
Stéphane
Lavignac.
Oui, tout
à fait, oui, ça fait froid dans le dos, mais bon, c'est pas les éruptions solaires.
C'est totalement invraisemblable, ce scénario de réchauffement du noyau de la Terre.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas les éruptions solaires qui émettent des neutrinos, c'est vraiment les réactions de fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium au centre du Soleil qui libère des neutrinos.
Ouais, en tout cas, ces neutrinos solaires, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils ont permis de confirmer notre compréhension de ce qui se passe au centre du Soleil. Il a pour le coup le noyau du Soleil, Antoine Kouchner, et c'est très important évidemment.
Oui, ça a vraiment permis de comprendre comment est-ce que le Soleil libérait son énergie. C'est d'autant plus important que quand vous regardez le Soleil, vous voyez la lumière qui s'en échappe, mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'il a fallu des centaines de milliers d'années pour qu'elle s'échappe, tandis que le neutrino, lui, il sort, puisqu'il interagit très peu. Il met 8 minutes avec sa vitesse de la
lumière.
C'est ça,
pour nous parvenir. Donc du Soleil à la Terre, 8 minutes.
Voilà, et donc détecter les neutrinos solaires, c'était détecter l'activité du Soleil en direct, quasiment, enfin à 8 minutes près. Et ça, c'était une avancée très importante. Il y a eu des étapes, néanmoins, pour arriver sur la détection en temps réel.
Donc sa vitesse est toujours la même?
Oui.
Donc la vitesse de la lumière?
Enfin, à quelques chevilles après, parce que ça dépend de sa masse, en fait, mais sa masse est très faible. Donc,
Alors, on a des auditeurs qui s'y connaissent bien en neutrinos. D'ailleurs, j'ai l'impression, comme Sarah, qui demande quel était le rôle de Ettore Majorana dans notre connaissance de neutrinos. Stéphane Lavignac, c'est pour vous cette question.
Oui, alors Ettore Majorana, c'était un jeune théoricien absolument génial, un élève d'Enrico Fermi, qui est connu aussi pour avoir disparu de manière
très jeune,
complètement mystérieuse.
C'est Étienne Klein qui avait sorti d'ailleurs un livre à son sujet, oui.
Et son rôle principal, c'est d'avoir introduit la notion de ce qu'on appelle un neutrino de Majorana, c'est-à-dire un neutrino qui est sa propre antiparticule.
Alors allez-y lentement vous nous dites. Donc c'est un neutrino qui a sa propre antiparticule.
Qui est identique à sa propre antiparticule. Donc il faut savoir que à chaque particule est associée une antiparticule de même masse, mais de charge électrique opposée.
Oui.
Donc, par exemple, à l'électron est associé à ce qu'on appelle le positon, qui est une particule de même masse, mais qui a une charge électrique positive, là où l'électron est chargé négativement. Et donc, comme il y en a une qui est chargée positivement et l'autre négativement, ça peut pas être la même particule.
Ouais.
C'est forcément des particules différentes.
Mais le neutrino,
lui, il n'a pas de charge électrique. Donc, en principe, il pourrait être sa propre antiparticule, ce qu'on appelle un neutrino donc de Majorana.
Ouais.
Et si c'était le cas, ça ouvrirait des perspectives formidables en physique des particules et en cosmologie. Donc j'ai dit tout à l'heure que ça pourrait peut-être expliquer la prévalence de la matière sur l'antimatière dans l'univers. C'est un peu spéculatif, mais c'est une possibilité qui tient tout à fait
la route.
Ça,
c'est l'histoire vraiment des origines aussi. Hein. C'est-à-dire que la matière a pris le dessus sur l'antimatière.
C'est l'histoire des origines, parce que si...
C'est très important, évidemment. On ne serait pas là pour en parler.
Tout à fait. Si au moment du Big Bang, on part d'une quantité équivalente de matière et d'antimatière, les particules et les antiparticules vont s'annihiler, Et elles vont tellement bien s'annihiler, pardon, qu'il en restera très peu. Mmh. Et donc, on aura beaucoup moins de galaxies qu'un nombre infime de galaxies par rapport à ce qu'on observe. Donc, pour éviter ce scénario catastrophe, il faut qu'il y ait un mécanisme qui crée un excès de matière par rapport à l'antimatière. Mmh. Et les neutrinos, s'ils étaient des particules de Majorana, pourraient jouer un rôle là-dedans.
Donc tout ça c'est au conditionnel. Hein. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la recherche en cours encore.
Alors
ça fait partie
des expériences cruciales qui cherchent à voir si le neutrino et sa propre antiparticule sont des expériences très difficiles parce qu'il faut observer des désintégrations radiatives extrêmement rares.
Ouais. Notamment dans le tunnel du Modane que vous avez vu.
C'est ça.
Supernemo, vous avez parlé de Supernemo, c'est une expérience qui recherche justement des désintégrations qui prouveraient que le neutrino est sa propre antiparticule.
Antoine Kouchner, on le disait tout à l'heure, les neutrinos se mélangent, se déplacent, apparaissent et disparaissent périodiquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène, hein, je vous cite, de l'oscillation des neutrinos. Et c'est très important aussi cette découverte.
Oui, c'est très important parce que c'est ça qui apporte la preuve que les neutrinos sont massifs. Et donc ça, c'est effectivement un résultat tout à fait fondamental parce que ce n'était pas prévu dans le cadre du modèle standard de la physique des particules au départ. Et donc, ensuite vient effectivement ce que vient d'évoquer Stéphane et la possibilité, comment le neutrino acquiert sa masse, est-ce que c'est différent des autres particules, est-ce qu'on va vers des phénomènes physiques nouveaux?
Ben justement, en tout cas c'est une astronomie que vous présentez aussi dans cet ouvrage à la recherche des neutrinos, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Il nous reste une minute trente, est-ce que par exemple elle pourrait nous permettre de vraiment savoir plus sur la matière noire? C'est une question de Jean-Jacques sur franceinter.fr.
Elle pourrait, de façon très indirecte, si on trouve des sources qui nous envoient des neutrinos d'origine cosmique en excès, peut-être ça voudrait dire que là, on trouve de la matière noire qui s'annihile. C'est pas le but principal de l'astronomie des neutrinos.
Alors c'est quoi justement les grands projets en cours?
Pour dire les choses facilement et simplement, c'est d'ouvrir une nouvelle fenêtre d'observation sur l'univers, comme on l'avait fait depuis l'astronomie classique où on regardait dans le domaine visible, optique, puis on a utilisé des instruments pour voir des X au rayon gamma. On a appris beaucoup de choses sur les sources astrophysiques. On veut faire plus, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'astronomie multimessager, avec différentes sondes cosmiques, et les neutrinos font partie de ces sondes cosmiques.
Ah, on les considère comme des sondes, vraiment?
Absolument, c'est ça qu'on cherche à faire, comme les ondes gravitationnelles.
C'est ça.
Et donc, on est en train d'arriver à cette étape où on va pouvoir croiser les différentes informations qui proviennent de ces neutrinos.
Donc il y a du travail pour les physiciens là, dans les décennies qui viennent, pour ceux qui s'intéressent à ce domaine en tous les cas.
Beaucoup de travail, on est vraiment dans un domaine émergent, avec des détecteurs de nouvelle génération.
Et très dynamique, et avec des passionnés comme vous. Ça s'appelle À la recherche des neutrinos, messagers de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Justement, c'est le sous-titre de cet ouvrage que vous signez chez Duno, dans la collection Quai des sciences. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler cet après-midi.
Merci à vous.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
David Amiel, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, David, Science Grand Format, a décidé de nous convier à un tour du monde de 24 heures pour découvrir combien notre planète est vivante.
Ah, effectivement, Mathieu, aujourd'hui, dans les forces de la Terre, on va nous inviter à un voyage unique et extraordinaire, hein, au cœur même de notre bonne vieille Terre. Une photographie qui sera vraiment sans retouche, sans maquillage, pour nous montrer qu'elle vit, qu'elle respire et vraiment qu'elle se transforme.
Alors, pour illustrer justement ces changements, le film qu'on va voir ce soir fourmille d'anecdotes, hein, plus étonnantes d'ailleurs les unes que les autres.
Oui, c'est une des grandes forces de ce documentaire. On va parler de volcans, de plaques tectoniques, de marées, de champs magnétiques, de photosynthèse. Donc, rien d'apocalyptique comme dans 2012, je vous rassure.
Bon.
Mais voilà, pour vous donner quelques exemples, on va par exemple apprendre que le sable du Sahara, en fait, est emporté par les vents et qui va fertiliser l'Amazonie. Ou même qu'en 3 heures, la Terre va générer une énergie nucléaire qui serait équivalente à peu près 4000 fois l'explosion d'Hiroshima. Mais moi, un de mes exemples que je préfère concerne le pôle Nord. Enfin, je devrais dire les pôles Nord parce qu'il y en aurait deux, en fait.
Et on va écouter justement un extrait de ce documentaire à voir ce soir.
Vous pensez sans doute que les points sur une boussole sont fixes. Détrompez-vous. Et plus surprenant encore, il existe deux pôles Nord. Ce qu'on appelle le vrai Nord est un point précis au sommet de la planète. Ce pôle Nord géographique ne bouge pas. Mais ce qu'on appelle le nord magnétique, le point sur la boussole, change d'emplacement tous les jours.
Si je me tiens à l'emplacement approximatif du pôle nord magnétique, il peut se trouver là-bas à midi et à l'opposé à minuit.
Le mouvement du pôle nord magnétique obéit à un cycle quotidien.
Prenez la Terre et le Soleil. Comme la Terre tourne sur elle-même, des régions différentes de l'atmosphère se retrouvent exposées au Soleil. C'est ce qui fait varier le pôle nord magnétique.
Voilà, tout ce qui est décrit justement dans ce film, David, a lieu quotidiennement sans qu'évidemment on s'en rende compte. Hein.
Alors c'est exactement ça, hein, tous les bouleversements qui se passent sous nos pieds ou dans les mers ou dans le ciel font que chaque matin, quand nous nous réveillons, la Terre a totalement changé depuis la veille, c'est ce qu'on va voir et c'est ce qui est vraiment fascinant.
Et ça s'appelle Les Forces de la Terre et c'est donc à voir ce soir dans la case Science Grand Format, c'est sur France 5 à partir de 20h50. Merci beaucoup David, vous êtes la voix de Science Grand Format, on vous retrouve la semaine prochaine évidemment.
À la semaine prochaine.
Merci également Tiffany Battistel qui était aujourd'hui à la technique et Thierry Dupin qui signait la programmation musicale de l'émission.